Je reste persuadé que quelques-unes des plus grandes découvertes de l'archéologie dans le futur, de manière générale, se feront sous la mer, parce que c'est là que sont nos grandes réserves de musées. Il est incontestable que le plus grand musée du monde est aujourd'hui sous la mer.
Nous allons embarquer pour une expédition d'archéologie sous-marine, une plongée pouvant aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. D'après les estimations de l'UNESCO, il y aurait dans le monde 3 millions d'épaves. Pour approcher ces trésors enfouis, il faut s'aider de la technologie, car la limite humaine pour une plongée, avec bouteille, est de 60 mètres seulement. Au-delà, ce sont donc des robots qui peuvent accéder à ce patrimoine.
C'est bon, vous pouvez sortir doucement.
Ok, bien reçu, on a pareil.
L'Alfred Merlin, c'est le navire amiral du département du ministère de la Culture en charge de la recherche en archéologie sous-marine. À bord de ce navire unique, les campagnes d'exploration réunissent deux univers qu'on pourrait pourtant penser opposés, les archéologues et les ingénieurs roboticiens.
Stop. Voilà, on est posé. La cage est larguée. Hop, je décolle. C'est beau quand ça marche. Bravo!
Le robot le plus abouti pour ces missions s'appelle l'Ocean One. Il a une apparence humaine, une tête, des caméras à la place des yeux, des bras et surtout des mains pour saisir les objets à remonter. Il peut même prendre du verre sans le casser tellement la pression de ses mouvements est contrôlée.
Pour nous, vraiment, l'objectif, ça, j'espère voir ça avant de partir en retraite, c'est la restitution du sens du toucher du robot vers l'archéologue. Arriver à restituer ça, pour nous, ce serait juste extraordinaire.
Sophie Becherel et Yann Frécy ont embarqué à bord de l'Alfred Merlin à Bastia, au nord de la Corse, une semaine à bord de ce navire avec deux épaves au menu de cette campagne, au cours de laquelle les machines sont dorlotées par les hommes. Archéologie sous-marine, des robots dévoilent les richesses des abysses. Voici leur reportage.
Interception. Magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Tous à tous, réunion au PC scientifique.
Bienvenue à bord à tous. Juste un petit rappel donc, au niveau de l'organisation à bord. Donc, moi, je suis le second capitaine, François. Donc, s'il y a tout ce qui est problème médical, etc., s'il y a des choses à me communiquer ou s'il y a des soucis de santé, on a une infirmerie, on a ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà pour ça. Un petit point au niveau des EPI sur les ponts, donc tout ce qui est équipement de protection individuelle. Dès qu'il y a des mouvements de grue, des opérations, etc., on est hyper vigilant. Donc on porte bien nos chaussures de sécurité, nos gants, le casque. Est-ce qu'il y a des questions sur l'organisation, sur la sécurité? Non? Ok. Bon, bah ça marche. Bah, merci à tous. Et puis, je laisse la main à Franca.
Merci François.
Franca Cibecchini.
On va serrer déjà avec des informations pratiques.
Archéologue au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, le DRASM, et chef de mission.
Si tout va bien, demain matin, très tôt, ça veut dire 6h, 6h30, hein, on devrait pouvoir aller sur Aléria 1 comme c'était prévu. Je voulais vous mettre une carte pour moi pour vous donner une idée de où on allait. Ça, c'est une carte qui date déjà de 2018. Et alors, pour vous donner l'idée, ça c'est Aléria 1 et ça c'est les Cuspies.
Là où on était la dernière fois, il y a beaucoup de choses.
Ouais, exact. Voilà, ça c'est l'épave Aléria 1. Alors là, c'est l'autophoto du site. Bon, ça va un peu vite parce qu'ils sont minutés.
Alfred Merlin, Bastia Port. Alfred Merlin.
Ah, c'est bon, vous pouvez sortir doucement.
Ok, bien reçu, on a pareil.
Je fais des colis.
Sur les colis, donc, j'ai pas reçu.
À tous, on peut larguer partout, c'est larguer bon. Partout.
Ok, reçu les avant. Reçu. Point de pas avant, largué.
C'est clair
devant.
C'est clair devant.
Ok, bon, on est clair derrière.
Ok, clair devant, derrière, on a pareil.
Où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on se dirige?
Bah là, on sort de Bastia et on va faire route sur Aléria, donc l'épave sur laquelle on va plonger avec les robots aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 3 heures de route.
Mer belle.
Mer belle, la météo s'annonce excellente.
L'Aleria 1 et le Francesco Crispi sont les deux épaves au programme de cette mission. Un bateau antique et un paquebot italien utilisé pour le transport de troupes et torpillé par un sous-marin anglais en 1943.
Je suis Franca Cebecchini et je suis archéologue au DRASM. On va vers une épave antique qui nous avons dénommée Aleria 1 parce qu'il est en face de la ville antique d'Aleria en Corse, sur la côte est, c'est-à-dire la côte qui regarde l'Italie. Donc c'est une épave d'une navire marchande romaine, plus précisément du début du XIIe siècle après Jésus-Christ. On est à l'époque vers la fin du royaume d'Adrien, l'empereur Adrien. Et c'est l'épave d'un bateau qui s'est dirigé probablement vers la ville d'Aleria, la ville antique d'Aleria, pour commercialiser ses marchandises.
De quoi était-il chargé ?
La cargaison de cette épave est formée par des amphores qui transportaient du vin, du poisson, de l'huile, des sauces de poisson, qui venaient de toute la Méditerranée. Tous ces amphores-là sont arrivés dans un précédent voyage à Rome, et là ont été chargés toute une série de céramiques, de productions artisanales et surtout des lampes à huile qui étaient produites dans la ville et ses alentours.
Quand a été découverte cette épave et dans quel état est-elle ?
Alors, l'épave a été découverte en 2012. On a tout de suite compris que l'épave avait subi les passages d'un chalut, des pêches, qu'il avait, on l'a vu après, presque sectionné au centre. On était un peu désespérés. Mais finalement, les dégâts sont beaucoup moins importants de ce qu'on pensait au départ. Toute une partie de la cargaison est encore en place. De fait, on peut voir une chose assez exceptionnelle, des entières rangées des lampes, encore parfaitement disposées au centre de la cale et encore parfaitement visibles. Chose qu'on a vraiment, c'est très rare pour nous de voir une cargaison de ce type encore en place. Donc, elle a été partiellement détruite, mais elle est encore très très riche et très importante pour nos études sur les commerces antiques.
Quel est l'objectif aujourd'hui ?
Nous allons tester la nouvelle capacité de ces robots humanoïdes qui est Ocean One de récupérer des objets fragiles et des petites dimensions, c'est-à-dire des lampes, si possible de la poterie à parois fines, c'est des jolies poteries assez légères, et peut-être du verre. C'est les tests parce que c'est une des grands défis de l'archéologie sous-marine à grande profondeur aujourd'hui, est justement la capacité de prélever ces types d'objets de manière non destructive.
Sans les broyer,
sans les casser, et si possible aussi en sélectionnant de manière très précise ce qu'on veut vraiment prendre. Donc un peu comme un vrai plongeur qui peut choisir et prendre avec ses mains des objets précis et les mettre de manière délicate dans un panier pour les remonter.
Michel Lourge, je suis archéologue sous-marin, membre de l'Académie de marine. Alors Ocean One s'inscrit dans une thématique qui est celle de l'archéologie robotisée des abysses. Alors pourquoi les épaves à grande profondeur ? Parce qu'il est apparu à la fin des années 70, début des années 80, lorsque les premières déclarations de découverte sont arrivées au DRASM, où j'avais commencé à travailler. C'est qu'on découvrait qu'elles avaient un potentiel infini, parce qu'au-delà du chaos initial du naufrage, ces épaves n'avaient guère souffert, ni de l'oxydation que subissent les épaves de faible fond, n'avaient pas fait l'objet évidemment de récupération au lendemain du naufrage, parce qu'elles étaient inaccessibles par leur bathymétrie. Donc il y avait des tas de facteurs qui nous encourageaient à se dire, ces épaves-là, il faudra un jour les étudier, mais on en parlait un peu comme des enfants à Noël en disant « un jour, quand je serai grand ». C'était un peu une espèce de mythe, un rêve et une option, un objectif, mais qu'on voyait à très long terme. Et puis, dans les années 90-2000, les épaves qui étaient découvertes et dont on nous transmettait les photos, toujours des industriels ou des militaires, on s'est rendu compte que beaucoup de ces épaves étaient déjà en train de souffrir. Et une dégradation qu'on n'avait pas anticipée, c'était celle notamment, particulièrement, de la pêche par grand fond. L'assèchement de la ressource halieutique a conduit les chalutiers à aller de plus en plus loin et de plus en plus profond. Et ces épaves magnifiquement conservées jusqu'à il y a peu étaient en train de subir des phénomènes de détérioration, voire de destruction massive.
Le chalut raclant finalement le fond ?
Alors les chaluts et les panneaux de chalut notamment. Alors si c'est en fait on a deux facteurs. Si c'est une épave contemporaine, une montagne d'acier, le chalut va rester emprisonné dans la montagne d'acier et l'épave devient définitivement inaccessible parce qu'on peut plus s'en approcher avec des robots, ça devient un piège mortel pour une machine. Et lorsque c'est une épave antique, une épave romaine, les 20 mètres ou 25 mètres d'une épave romaine vont être traversés en 3 ou 4 secondes. Et là, le panneau de chalut ne rencontre aucune résistance. Il arrache tout. C'est-à-dire, on a trouvé des chargements d'amphores littéralement pulvérisés sur des centaines de mètres jusqu'au bois de l'épave, arrachés du fond par le passage du chalut. Donc là, on s'est dit, il faut absolument qu'on développe nos propres machines. Mais évidemment, il nous manquait à peu près tout. La technologie, on avait que l'ambition au fond. On n'avait pas la technologie, on n'avait pas la ressource financière. Et c'est en 2007 que j'ai lancé, alors je venais d'être nommé directeur du service où je travaillais depuis le début des années 80, que j'ai lancé l'RQJ des Abysses, partant du principe qu'on n'avait rien, mais que ça n'empêchait pas d'aspirer à avoir.
Et on peut dire Ocean One, c'est le dernier né, en fait, de cette ambition.
Alors, en fait, au cours de notre étude, on s'est rendu compte que, petit à petit, chemin faisant, et au cours de la réflexion, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait piloter de mieux qui ferait exactement ce que fait un humain, si ce n'est un avatar d'être humain. Et c'est au cours de toutes ces pérégrinations scientifiques où on allait interroger les laboratoires de robotique, on a commencé à établir des collaborations et des coopérations qui étaient de plus en plus intéressantes, que j'ai rencontré Oussama Khatib. Et Oussama m'a demandé de lui expliquer quel était mon projet. Quand j'ai eu fini, il m'a fait une surprise incroyable. Il a sorti son mobile et il m'a dit, voilà, je vais te montrer sur quoi je travaille et quel est le produit de ma réflexion. Et il me montre Ocean One. Donc je voyais devant moi, au fond, à nouveau le cadeau de Noël où on a aspiré à l'avoir et tout d'un coup on voit qu'il est là et qu'il existe et que des gens travaillent dessus et qu'on est très près de sa réalisation. Et donc Ocean One a progressé. En 2016, on a fait une première mondiale en utilisant Ocean One sur l'épave de la Lune, un vaisseau de Louis XIV perdu devant Toulon par 90 mètres de fond.
350 ans que l'épave repose au large de la pointe de Kerkéran. Et pour la première fois cette année, des hommes vont plonger sous la Lune.
Plus de 3 siècles après son naufrage, 20 ans après sa découverte par hasard, l'épave mythique de la Lune, un grand vaisseau de guerre, est sur le point de révéler ses secrets. Pour les historiens, ce navire est l'un des plus rares, mais aussi l'un des plus précieux témoignages de la marine de guerre du XVIIe siècle. Magnifiquement conservé, l'épave de la Lune est un site archéologique de premier ordre. C'est donc une occasion unique de mettre en place un dispositif de fouille impressionnant.
Cette machine extraordinaire arrivait, elle a traversé l'Amérique et l'Atlantique et elle a fait son premier bain de mer en Méditerranée. Il y avait un côté magique, en plus le nom du bateau se prêtait à tout exploit technique. Nous aussi, on a marché sur la Lune à cette occasion et surtout, ça a excité nos ambitions encore plus. Et on a dit, ben, la prochaine machine, il faut qu'elle descende à 1000 mètres. Et actuellement, nos objectifs sont restés, ont grandi, mais sont restés à peu près raisonnables. Aujourd'hui, on considère qu'il faut qu'on puisse travailler jusqu'à 2000 ou 2500 mètres de fond. Et là, on va travailler aujourd'hui, notamment, on va travailler sur une épave complexe, qui est un paquebot italien, le Francesco Crispi, perdu en 43. Alors là, c'est évidemment très compliqué. Tous les gens qui travaillent dans l'offshore le savent. Quand on s'approche d'un gigante, une espèce de cathédrale de ferraille, c'est à peu près partout où on peut rester coincé. On peut coincer un câble, etc. Et en même temps, on va demander à Ocean One des choses un peu compliquées, c'est-à-dire s'avancer, faire ce que ferait, au fond, un plongeur avec des bouteilles sur le dos dans 20 mètres d'eau.
Sécurisé à l'arrière aussi.
Super. Ah, c'est bon, Guillaume. Ok, reçu. La robotique passe à l'eau.
Oui, oui, on est là, oui, on est prêt, on y va.
Maintenant, que je c'était pour vous informer que de notre côté, on est clair. Ici, 1330. Ça tient bien, donc si c'est clair pour vous, on peut commencer les mises à l'eau.
C'est parti.
La musculation avec ça.
Putain, je sais pas combien ça pèse, mais
c'est 30 kilos, je crois.
Non, ça fait plus. Fais
gaffe,
fais
gaffe. Mets du moins, Didier. Et quand il donne du coup, faut reprendre dessus.
Faut le tirer dessus.
Ouais, faut le tirer dessus, Hélène.
On
Non,
à chaque fouille, plusieurs robots sont mis à l'eau. Fruit de la collaboration entre le département de recherche d'archéologie sous-marine, le laboratoire de robotique de l'Université de Montpellier et des industriels, ces robots ont chacun un rôle dédié. Sur le pont de l'Alfred Merlin, Hilarion, Arthur et Ocean One sont mis à l'eau. Des câbles ombilicaux les relient aux navires afin de les alimenter en énergie et de permettre un retour en direct et en image de ce qui se passe au fond.
Alors moi, je m'appelle Denis Dégé, je suis archéologue au DRASP depuis maintenant une grosse dizaine d'années. Et je m'occupe plus particulièrement de tout l'aspect archéologie en eau profonde, l'aspect technique. C'est-à-dire, je m'occupe des robots. Finalement, mon rôle, de manière concrète, je fais un petit peu interprète entre les archéologues qui ont des besoins et les ingénieurs qui ont des moyens. J'essaie de parler les deux langues. Et accessoirement, je manipule aussi mes propres robots. J'ai appris à les réparer, à les mettre en œuvre, etc.
Donc, comment s'organisent les différents robots et puis cette partie-là qui est le panier collecteur?
Ouais. Bah, en premier, on va envoyer, je pense, Hilarion, qui est le robot photographe. Après ça, on va envoyer Ocean One, qui lui est relié à la cage parce que c'est la cage qui lui apporte l'alimentation. Donc, il a un ombilical qui fait à peu près une trentaine de mètres. Donc, on va l'envoyer à l'arrière du bateau tranquillement. Et une fois qu'il est en sécurité, on pourra envoyer le second robot. Tout ça, c'est localisé aussi avec ces fameuses balises, hein, ce qui nous permet de savoir de la surface sur nos écrans où sont les robots les uns par rapport aux autres. C'est important, il ne faut pas croiser les ombilicaux pour éviter les paquets de nœuds, finalement. C'est long, quoi, 500 mètres. Hein. On est juste à une dizaine de mètres l'un de l'autre. Alors, une fois au fond, c'est Arthur qui lui emmène cette caisse de prélèvement. En fait, il va la déposer à un endroit judicieux. Il la pose au fond, grâce au plomb, elle reste en place. Il peut s'écarter. Et là, Ocean One peut travailler, manipuler ses objets, faire ce qu'il a à faire. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il faut que tout se passe comme prévu, ce qui n'est jamais tout à fait le cas. Mais d'un autre côté, la particularité de Ocean One, c'est justement d'être capable de s'adapter. En fait, il a ses mains, il peut les utiliser pour régler les problèmes. Si tu as un objet ou un outil qui se met de travers, ce sera à lui de le récupérer à nouveau, de le remettre en bonne position.
Pour les archéologues sous-marins, est-ce qu'il y a un avant Ocean One et un après ?
Alors Ocean One, en fait, ça reste une plateforme expérimentale. Je dirais que c'est plutôt c'est un avenir, Ocean One, pour nous. C'est-à-dire qu'il a, il porte en lui, en fait, tout ce dont on rêve, mais c'est pas au point. Par exemple, pour nous, vraiment, l'objectif, ça, j'espère voir ça avant de partir en retraite, c'est la restitution du sens du toucher du robot vers l'archéologue. Finalement, on a besoin de ça. Quand on plonge, moi je plonge, donc en fait j'ai aussi cette appréhension, mais ce qui me manque quand je suis avec le robot, c'est que j'ai pas de contact avec les objets. Quand on commence à mettre les mains dans le sédiment, etc., on voit plus. Donc il y a que les mains qui permettent de voir ce qu'on fait. Je suis capable de voir si c'est du bois, si c'est de la céramique, si elle est fêlée ou des choses comme ça.
À la texture,
au poids, à tout un tas de sensations qui sont apportées uniquement par le toucher. C'est finalement arriver à restituer ça, pour nous ce serait juste extraordinaire. On est sur la route, je dirais, mais ça reste de la recherche, de l'expérimentation. Il y a tout à inventer. Finalement, il y a des choses qui sont très au point sur la robotique médicale. L'idée, c'est de transporter déjà tout ce qui existe, tout ce qui fonctionne, mais dans des conditions de pression qui sont abominables, dans des conditions d'érosion mécanique, exposé aux sédiments, etc., et sans entretien ou avec un entretien qui soit compatible avec l'organisation d'un chantier archéo.
Nous allons désormais descendre à 300 mètres de profondeur. Nous, c'est en réalité Ocean One, la merveille capable de saisir des objets, Hilarion, qui éclaire et qui filme, et Arthur, qui permet de faire remonter les pièces du bateau grâce à sa caisse de chargement.
Je vais mettre le robe sur la palette. Cette partie-là, là, les ailes sur les côtés, c'est protection des moteurs. On peut jamais le porter ni exercer d'effort là-dessus. Par contre, tout ce qui est solide, c'est cette grande plaque verticale ici. Donc tu peux le saisir ici.
D'accord.
Ou là. Là. C'est bon pour vous ? Tout le monde est prêt ? Allez, c'est parti.
Toutes les opérations de pilotage sont centralisées en salle de robotique. Un pilote par robot. Chacun son écran de contrôle. Les archéologues sont eux à l'arrière pour guider les opérations et dire quelles pièces ils souhaitent prendre. L'ambiance ressemble à celle d'une tour de contrôle.
C'est bon ?
Ok.
Allez, on est parti.
C'est bon.
Je vais couper mes spots comme ça. Tu me filmes, Bozo, tiens, pendant qu'on y est.
Ouais.
C'est le même prix. Ok, bon, moi je suis libre, je descends. Alors là, si on s'en mêle pas, les chéris, ça va être beau. Taisez-vous, s'il vous plaît. Michel, moi je peux pas surveiller où est Ocean One, puis tu vérifies qu'il est toujours bien.
Non, 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 Michael, il faut lui donner des plans.
Tu veux poser ton objet, c'est ça?
On va pas le poser, on va redémarrer sans le poser.
Ocean One.
Oui.
Look.
Qu'est-ce que tu veux qu'on
fasse?
Just say what we want.
Can you go forward?
Forward.
Là, je suis dans le 330. Dans le 300.
Ouais, t'es à 5 mètres du plan de pause.
Ok, on y va.
Au-dessus du fond, là, t'es à
4 mètres. Ok, allez, on marche avant. Ok, d'accord.
Voilà, il te reste 3-4 mètres à faire. Attention, Ocean One, tu te rapproches.
Donc là, je pose la caisse juste devant. Là, hein.
Là, tu seras dans la zone libre, tu as 3 mètres à faire et c'est une bonne zone. Voilà, tu la vois.
Elle est belle. Juste après, là, il y a encore quelques poteries et juste derrière, c'est écrit.
Et les crevettes.
Ok, on y va. Là, je mets une lampe à huile, dis donc, juste en face de moi. Là. Elle est hyper dégagée, celle-là. Hein. Tu la vois?
Ouais. Avance 20 mètres encore.
Stop. Voilà, on est posé.
Tout à l'heure.
On va libérer la cage. La cage est larguée. Hop, je décolle. C'est beau quand ça marche. Voilà, et tu l'as dit, Bozo.
C'est la récupération qui va être géniale.
Tais-toi. Bravo.
Bingo.
Allez. Allez, on se déconcentre pas.
Vincent, nous on va reculer.
Attention de ne pas taper la caisse, tu peux la renverser. Là, les ombilicaux, les petits chéris, c'est la foire. Hein.
Ouais,
non. Go ahead, please. Go forward, not backward. Attendez, on fait la photo.
Attention, attendez, parlez pas tous en même temps.
Capitaine pour robotique.
Oui, on écoute.
Est-ce que tu peux avancer le bateau de 4 mètres, s'il te plaît?
Ok, j'avance de 4 mètres.
Merci.
Là, si tu descends devant toi, t'as une petite céramique. À gauche.
Un petit bleu. Essaye.
Oh, yes,
ah oui,
yes.
Merde, on l'avait pris.
Oh, ça c'est ballot.
Oui. C'est pas grave, il y en a d'autres.
Heureusement qu'ils ont tout prévu, c'est au moins une cargaison pour qu'on s'arrête.
Avance s'il te plaît, Oussama. Encore, vas-y, t'es presque là, encore 1 ou 2 mètres et tu seras bien.
Ouais.
Vas-y Oussama, tu vas y arriver. C'est bon là. Bravo!
Applaudissements!
Attention à la caisse! Montez! La caisse est en train de se retourner.
Ça y est.
Confirme d'ailleurs, il est un peu remonté, je l'ai fait redescendre. Tu es à la cage à 14 et Ocean One à 9 mètres, il est très en arrière de la cage.
Voilà, c'est parfait comme ça, c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut faire.
Ah, Ocean One is going up, take care.
Reçu, il y va.
Stéphane,
je fais
attention à toi.
Il faudrait quelqu'un pour déplier le portique, s'il vous plaît, indiquer peut-être. Serge, je reprends la remontée.
Parking à déploiement. 14 mètres.
Cage est à 13 mètres.
Ocean One à 23.
Reçu, tu me dis quand la cage est à 8 mètres.
Regarde, il est là, et avec la caméra, pour le moment. We have it.
Allez, il faut rentrer Hilarion parce qu'il y a des réparations dessus.
On les met là pour le moment. Et après, on les déplacera. On va voir la pêche. Ils sont petits, hein. Ils sont plus... mais parce que je ce que je disais, même la poterie, je pense que m'a dit qu'il n'arrivait pas à la soulever. Oui. Moi, je pense qu'elle était beaucoup plus petite. Mais c'est quand on pensait. J'attends que Ocean One soit à bord, parce que c'est à partir de là que Vincent va me libérer la caisse. Et de fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de les mettre dans l'eau douce, dans des conteneurs plus petits, peut-être éviter qu'ils bougent dans la navigation.
130
à la bobine. Pour les amateurs, il va y avoir déchargement de la caisse de prélèvement dans 2 secondes. Ah, regarde. Noisette. C'est un morceau de noisette qui était dans les pots. Il devait avoir une partie de la cargaison des noisettes. Et qui sont conservées dans les bateaux. Ne le vide pas, hein. Si. Mais ne le vide pas. L, F.
Ça, c'est le nom d'un producteur éventuellement,
oui.
En cas ?
Si, exact. C'est les noms d'un des lucernari, c'était les noms techniques, c'est-à-dire les personnes qui fabriquaient des lucernes, c'est-à-dire des lampes à huile en latin. Et celui-là, on va voir qui c'est, je ne le connais pas. Et ça, on ne l'avait jamais vu. Déjà, on a 3 lampes. Un petit pot à 1 once à paroi fine. Un morceau de noisette qui confirme une observation qu'on avait fait en 2015. Dans les photos, on avait reconnu 2 noisettes sur une photo. Et là, on en trouve un morceau. Alors, ça pourrait être une noisette qui vient d'Écorce, qui soit récente. Mais on est loin quand même de la côte. C'est évident que s'ils étaient restés en surface depuis le naufrage, ils ne seraient pas là. Ils seraient déjà complètement détruits. Ça confirme l'hypothèse, on avait dit, d'une cargaison de marchandises périssables qui pouvait être en dessus de la cargaison des céramiques fines, des lampes et tout. Ça pourrait être des sacs, des noisettes, par exemple. Bon, alors on peut aller loin. Hein. Si on pense à la Corse aujourd'hui, est-ce que les bateaux n'étaient pas déjà arrivés à l'Eria et repartaient et l'avaient chargé des noisettes? C'est intéressant.
Après les opérations sur l'épave antique, changement de cap. À 9000 nautiques au large de Bastia, par 500 mètres de fond, gît le Francesco Crispi. Un paquebot de 85 mètres de long, transformé en destroyer par l'armée de Mussolini. Un navire fantôme, posé sur le fond sableux et quasi intact. Le genre d'épave qu'affectionne Michel Lourd, il connaît l'histoire de ses vestiges dans leurs moindres détails.
Alors Francesco Crispi, c'est un bateau un peu mythique ici, hein. Il a été torpillé en 1943 par un sous-marin britannique, le HMS Saracen, et il amenait des troupes italiennes en Corse pour essayer précisément de limiter la capacité de la Corse de s'émanciper de la tutelle nazie. Et donc ce bateau, finalement, partant par le fond, conduit à ce que la Corse, peu de gens le savent, mais ça a été le premier territoire national libéré en 1943. Et donc ce navire est à la fois mythique et crée une sorte de mystique, parce que c'est un paquebot à l'origine. Donc c'est un paquebot fait pour faire du tourisme, de la croisière, du passager, des enfants qui rient sur les ponts et qui jouent au ballon. Et puis on arrive sur le fond, on découvre cette machine énorme, hein, c'est une grande machine en fer, très longue, très haute, très massive. On y voit encore les grands salons où autrefois on donnait des réceptions, et en même temps ça a été un transport ship, il était créé pour transporter des troupes. Et malheureusement pour eux, parce que la guerre, le temps de la guerre est passé, il reste aujourd'hui une communauté de pensée que ce sont des humains qui se trouvaient à bord, et entre 800 et 1000 morts sont le résultat de ce torpillage, qui est une chance pour les Alliés et une catastrophe pour l'histoire de l'humanité, comme toujours. Donc ce bateau, c'est à la fois la synthèse d'une période criminelle, celle de l'Allemagne de la nazie et de l'Italie mussolinienne, et en même temps un drame de l'humanité avec 800 types qui n'en demandaient pas tant et qui ont été envoyés par le fond.
Et dans quel état est le bateau ?
Le bateau est assez singulier, il a déjà ses stigmates, ce que j'appellerais les stigmates de la Lomonas titanicae, cette bactérie qui mange du fer et que l'on trouve sur les épaves de très grande profondeur. Elle s'appelle Lomonas titanicae parce que c'est sur le Titanic qu'on a commencé à mettre en évidence l'activité de ces bactéries. Donc ces épaves de très grand fond en ferraille, quand elles sont par petits fonds, les épaves en ferraille sont mangées par la corrosion et par grands fonds mangées par les bactéries. Alors ça peut paraître singulier, mais une épave romaine a une longévité plus assurée que celle des grands navires en fer. Et quand on arrive sur le Crispy, on voit nettement cet aspect curieux. Enfin, maintenant j'en ai l'expérience, donc je la reconnais tout de suite. Cette espèce de couleur assez curieuse, un petit grès des épaves mangées par les bactéries. J'ai étudié le Danton au sud de Sardaigne par 1025 mètres de fond qui a été torpillé, qui est un cuirassé français torpillé en 17, et on le voit déjà en train de s'effondrer. Ces bateaux en métal présentent une singularité, c'est que jusqu'au moment du crash, on peut avoir l'impression que ça tient et ça va tomber d'un coup. Donc
qu'est-ce qui se passe là pour le Crispy ?
Alors le Crispy, on ne le distingue pas clairement aujourd'hui, mais compte tenu de sa construction navale, je pense que le Crispy, dans 100 ans, il sera plus que des tôles rongées, écrasées les unes sur les autres par le fond. Alors c'est pour ça aussi qu'on collationne l'information, parce que souvent on nous a dit « Ah, oh, mais ces épaves contemporaines, finalement, on connaît... » D'abord, c'est faux, on connaît pas tout. On ne raconte pas non plus la vie de chacun de ceux qui étaient à bord. L'archéologie, c'est pas seulement de rendre l'image d'un bateau en métal, c'est de restituer tous ceux qui vivaient à bord, ce qui y était, ce qu'on avait fabriqué, comment on consommait. Et puis, il ne faut pas insulter l'avenir. Un jour, ces épaves ne seront plus rien. Elles ne seront plus visibles, elles seront écrasées. Et donc, c'est la bonne période maintenant pour assurer le récollement, faire de la photographie, les étudier, les analyser et conserver ça dans des archives où elles seront utiles dans 100 ans ou 150 ans. Sinon, je pense que dans 150 ans, des archéologues se diront « Mais enfin, quand même, ils avaient la possibilité, le bateau était encore entier. Pourquoi ils n'ont pas fait les photos, la couverture 3D, etc. ?»
Sur cette deuxième épave, la manipulation des robots qui interviennent tous ensemble est délicate. Il faut les positionner avec précision, éviter à tout prix que les câbles ne s'en mêlent et, si possible, filmer l'intérieur de l'épave. Ocean One porte cette fois la caméra à bout de bras. C'est une nouveauté et l'épave est dangereuse.
Open.
Oussama Khatib est professeur à l'université américaine de Stanford. Il est le père du robot humanoïde. Ses étudiants sont à ses côtés, à la manœuvre pour les essais. Avant la mise à l'eau, il teste les mains du robot et particulièrement ses doigts.
Interception sur France Inter.
Are you ready?
Let's make sure that they're at zero right now.
Okay.
And then this is minus 900. Is it closing?
Yeah, it's closed.
Open. Okay, now close. Open. Close again.
Close.
Open again. Perfect. C'est parfait.
Yeah, they're both open.
En fait, Ocean One, c'est pas un robot de plongée comme tous les autres robots qui plongent d'ailleurs plus en profondeur plus importante que Ocean One. Ocean One arrive à plonger à 1000 mètres, mais il y a des robots qui vont au-delà. La différence, c'est que la plupart des robots, c'est des robots qui voient et qui observent. Et Ocean One a été conçu pour faire, pas seulement pour voir. Et non seulement ça, le robot fait à travers une connexion à la surface où un opérateur est en train de sentir ce que le robot ressent. C'est-à-dire quand le robot touche le fond, eh bien nous, sur la surface, on va pouvoir sentir le contact. Et ça permet d'amener l'humain à agir avec le robot et à mettre
les capacités humaines avec les capacités du robot de façon à accomplir une tâche. Et la plupart de ces tâches, c'est des tâches de dextérité. Et donc, c'est un concept qu'on connaît bien sur la surface, mais on n'a jamais vraiment réalisé dans les fonds. Et donc, on est toujours dans l'exploration.
Ce sens du toucher que vous lui avez donné, comment ça marche ?
En fait, le toucher, c'est l'humain qui le ressent. Et là, ça nous amène sur un autre système qui s'appelle le système haptique. Donc, c'est un robot. Et ce robot n'agit pas sur l'environnement, mais agit sur l'humain. C'est-à-dire, il retourne à l'humain la force, les forces, les contacts, l'information qu'on veut lui donner. Donc, on fait ça d'abord avec l'environnement virtuel, c'est-à-dire avec un simulateur, et vous pouvez ressentir les textures, vous pouvez sentir le frottement, vous pouvez vous déplacer dans ces environnements, etc. Mais là, on fait la même chose, mais dans l'environnement réel. Donc, c'est plus facile, en fait. Alors, maintenant, quand on bouge la main, on a la sensation du contact, on a la sensation de la structure par les forces de contact sur le robot. Je me rappelle la première fois qu'on est descendu sur le Crispy et je regardais le Crispy en 3D, je voyais les profondeurs et tout ça, je m'approche. Et quand j'ai touché, l'émotion là, c'était incroyable.
Vous avez ressenti le métal ou la dureté ?
Non, mais j'ai ressenti le contact, mais en le voyant, et ça faisait quelque chose d'extraordinaire, une immersion totale. C'était génial.
Bah, il faut que tu donnes un peu plus de mou, là, peut-être. Hein. Il est trop, les moteurs sont pas dans l'eau. Donne 50 cm, s'il te plaît, Serge.
Like 50 cm. Very good. Little more.
Something is stopping the robot from moving down.
Il n'arrive pas à descendre parce que ça le tire de quelque part.
Tu peux lui faire refaire un essai de rotation à gauche?
Oui.
Parce que tout à l'heure, quand tu lui as dit à gauche, il est parti à droite.
Non, mais ça va.
J'ai l'impression qu'il avait du mal à venir à gauche.
En fait, le problème, il y a un attachement et ça le. Oui, oui. Ça,
it might just be that because it's pitched forward.
Il a du mou là pour tourner.
Okay, okay. Adrian, could you rotate to the right now? Ça marche très bien.
Ça, oui. Sur la gauche et tout à l'heure sur la gauche.
Can you turn to the left?
Yeah.
Ça marche bien. Génial.
Je suis Vincent Creuse, je suis enseignant-chercheur en robotique à l'Université de Montpellier. La première différence entre les engins industriels et les machines qu'on développe, c'est leur capacité à travailler sans se poser au fond. Les engins industriels vont se poser au fond et ensuite vont pouvoir manipuler avec leurs bras de façon précise, mais sur un champ archéologique, c'est un petit peu compliqué de se poser parce qu'il y a souvent des objets tout autour. Nous, ce qu'on propose, sont des robots qui vont travailler à la volée, c'est-à-dire sans toucher le fond. Et pour cela, on a besoin d'une grande précision dans la localisation, mais aussi dans la commande du robot, c'est-à-dire dans son pilotage automatique par ordinateur, pour que le robot puisse s'approcher avec une précision centimétrique des objets pour pouvoir les prélever sans abîmer l'objet, sans abîmer les objets qui restent autour sur le site archéologique. Les archéologues ont tendance au début à nous demander de reproduire leurs gestes. Et puis, et c'est aussi pour cela que je les accompagne sur les missions. En observant, on s'aperçoit que la manière de faire le geste avec un robot n'est pas nécessairement la même manière que pour un humain. Donc on va leur proposer des solutions très différentes pour prélever les objets auxquels ils n'auraient pas nécessairement pensé et auxquels nous n'aurions pas pensé non plus si on n'avait pas connaissance de leur métier. Donc il s'agit des systèmes d'aspirateurs, des systèmes de griffes.
Néanmoins, la main, la préhension, ça reste une question intéressante, c'est ça, pour les roboticiens ?
Oui, absolument. C'est encore un des graals pour les roboticiens sous-marins, puisqu'on avance. Une main qui brasse du sable et qui manipule des objets, c'est soumis à des contraintes extérieures extrêmes avec l'environnement marin, la pression. À 2500 mètres, on a 250 bars de pression, c'est-à-dire 250 kg par centimètre carré. Parce qu'avec des systèmes élémentaires d'aspiration, de récupération, il y a des choses qu'on ne peut actuellement pas récupérer de façon tout à fait sûre. Par exemple, une chaussure qui a passé 500 ans sous la mer, si on essaie de la récupérer aujourd'hui et on n'essaye pas, on l'abîmera. Donc là, il faut développer un robot qui ait des capacités vraiment très particulières. Et donc, probablement que l'humanoïde avec des bras et des mains polyarticulés, c'est l'avenir de l'archéologie sous-marine.
Nadine Lebris, vous êtes biologiste à Sorbonne Université. Pour quelle raison on vous retrouve sur cette campagne de fouilles archéologiques sous-marines ?
Alors, il se trouve que sur les épaves, en fait, il y a toute une faune marine qui s'installe, qui se développe. Et pour le coup, on a la connaissance du temps qu'ont mis à se développer ces coraux, ces espèces, puisqu'on sait à quel moment l'épave est arrivée sur le fond.
Donc, sur ce Francesco Crispi, les archéologues ont détecté des espèces particulières de coraux.
Oui, ce sont des coraux qui sont connus, qui sont constructeurs de récifs, des coraux profonds, donc blancs. Ce qui a été filmé, observé, ce sont des massifs qui font plus d'un mètre de diamètre, donc qui sont assez exceptionnels, et qui sont aussi dominés par une espèce qui est plus rare en Méditerranée, l'Ophelia pertusa, et qui n'a pas été décrite en fait dans cette région entre la Corse et l'Italie. C'est une autre espèce, Madrepora oculata, qui domine. Donc il y a des interrogations scientifiques sur sa présence, et puis surtout, on montre que ces épaves sont des lieux de vie, des lieux d'habitat très riches, avec la présence de ces coraux qui abritent ensuite dans leur structure, dans les habitats qu'ils forment, des nombreuses espèces.
On se trouve justement là à 500 mètres de profondeur, c'est considéré comme très profond et vous allez pouvoir monitorer finalement le comportement du corail en fonction de l'évolution de l'environnement de la mer.
Tout à fait, ces eaux à 500 mètres sont déjà complètement obscures, on est déjà dans le monde des profondeurs où les écosystèmes et les espèces sont spécifiquement adaptés à cette absence de lumière et de photosynthèse. Donc, la nourriture vient de façon différente, les espèces sont différentes de ce fait. Et donc ces changements, alors il y a le changement de température, la température en Méditerranée dans les eaux profondes est très chaude par rapport aux autres bassins océaniques. On est à presque 14 degrés, entre 13 et 14, y compris très profond, mais on voit depuis une vingtaine d'années un réchauffement de près de presque 1 degré, ce qui est énorme pour des eaux profondes qui normalement sont très stables et qui à un moment donné peut atteindre les limites de tolérance de ces espèces. Donc ici, il peut y avoir en Méditerranée une adaptation de ces populations, toujours la même espèce, mais acclimatée ou adaptée, en tous les cas, à des températures plus élevées. Mais ça peut être aussi beaucoup plus proche du seuil de tolérance et donc dans une limite qui est plus critique. Donc la question, ça va être où sont les parents de ces coraux qui ont colonisé il y a 75 ans ? Mais on peut aussi regarder, et ça c'était très intéressant, la structure de la branche et des colonies. Et donc toute cette analyse fine est aussi quelque chose qui va nous renseigner sur l'état, le bon état écologique, le bon état de développement de ces espèces à cet endroit de la Méditerranée.
Ocean One reste à ce jour un prototype imaginé par un as de la robotique mondiale. C'est l'amitié entre Oussama Khatib et Michel Lourd qui a jusque-là permis une collaboration hors pair. Le robot humanoïde sera encore amélioré à l'avenir pour rendre son pilotage plus aisé et surtout lui permettre d'atteindre les 2000 mètres de profondeur. Repousser les limites, c'est l'avenir pour l'archéologue plongeur Michel Lourd. Car des trésors engloutis au fond de la mer, il en reste des dizaines de milliers, un patrimoine à sauvegarder.
C'est joli, hein ?
Ocean One, c'est la projection de l'archéologue sous-marin. C'est au fond, puisque le terme aujourd'hui est un peu galvaudé, mais c'est quand même l'ambition, c'est d'en faire un avatar d'être humain. À la fois, c'est le navire amiral de la flotte des robots, puisque c'est l'humain lui-même, c'est un avatar d'être humain, mais il est de la même manière qu'un humain ne travaille pas seul sur une fouille. Hein. Il lui faut un accompagnement, c'est pour ça qu'on a des équipes de fouilles avec des effectifs de 15, 20, 25 personnes. Donc, de la même manière, Ocean One a besoin de cet environnement. Et donc, on a conçu d'abord un robot qui soit capable de nous restituer de la photo, de la vidéo de grande qualité. Aujourd'hui, évidemment, on tourne en 4 et 8K. Puis après, on a cherché à restituer des mains, c'est-à-dire comment on va pouvoir prélever des objets et pas prélever comme ça. C'est-à-dire, il faut, nous, le mobilier que l'on est amené à traiter, c'est-à-dire les objets archéologiques, c'est un peu de toute nature. Ça peut être des objets du hol organique, du bois gorgé d'eau, du métal concrétionné, du verre fêlé. Et donc, il va de soi qu'avec les machines classiques que l'on utilise dans l'industrie ou chez les militaires, les pinces hydrauliques, par exemple, ça a été non tout de suite. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, que ça détruisait les objets parce que ça appuyait trop fort. Donc, on a créé des robots qui ont des griffes qui sont comme des mains, qui s'adaptent à la forme de l'objet, qui n'exercent pas de pression mais savent conserver l'objet, qui peuvent le transporter. Et je dirais qu'il va venir un moment, et je suis sûr que ça va venir maintenant, parce qu'on a vu les progrès accomplis en 10 ans, donc c'est déjà tellement phénoménal qu'on ne peut plus renoncer à nos ambitions, c'est d'être capable de les envelopper, de les transporter, de les stocker. Et ça, on a déjà commencé à le faire sur certains sites exploratoires où on a mené ce genre de travail. Donc oui, il y a un travail infini. Je pense et je crois, comme beaucoup de mes collègues, notamment américains, avec qui on avait fait des tentatives de dénombrement, je reste persuadé que quelques-unes des plus grandes découvertes de l'archéologie dans le futur, de manière générale, se feront sous la mer, parce que c'est là que sont nos grandes réserves de musées. Salomon Reinhardt avait raison en 1928. Il est incontestable que le plus grand musée du monde est aujourd'hui sous la mer. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de sécuriser ce passé englouti de telle sorte que précisément les générations d'archéologues qui vont nous succéder aient la possibilité de l'étudier.
Sous-marine, des robots dévoilent les richesses des abysses. C'est un reportage de Sophie Becherel avec Yann Fressy à la prise de son, réalisation Charles de Silla, assisté de Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guérine. Vous pouvez retrouver d'ores et déjà cette émission à la réécoute sur le site de France Inter.